point de vue. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à notre rendez-vous Point de vue, une émission réalisée en collaboration avec la Fondation En Vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Diane, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. C'est notre dernière émission déjà.
Déjà, ça passe vite.
C'était une série de 12 émissions que nous avions proposées à Canal M. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter les invités d'aujourd'hui?
Oui, on a deux invités aujourd'hui, dont tout d'abord, on a le plaisir de recevoir M. Gilles Pepin. Il est président de Humanware, qui est une entreprise qu'il a fondée en 1988 avec l'aide de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Cette entreprise se spécialise dans le développement et la commercialisation de produits de haute technologie pour les personnes vivant avec une déficience visuelle. Monsieur Pepin est ingénieur et détient une maîtrise en traitement numérique du signal de la parole de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Pepin.
Bonjour, Diane.
On a également le grand bonheur de recevoir Monsieur Éric Houle, qui est représentant aux ventes chez Humanware, et aussi, Michel, il est athlète paralympique en goalball. Il a entre autres participé aux Jeux paralympiques d'Atlanta en 1996 et ceux de Sydney en 2000. Bonjour, Monsieur Houle.
Bonjour.
Alors, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de venir nous voir à Point de vue et de démystifier un peu ce qu'est Humanware et qu'est-ce que vous faites. Mais d'entrée de jeu, M. Pepin, comment a débuté Humanware?
Écoutez, Humanware, c'est le rêve et c'est la vision d'un directeur général à l'époque qui s'appelait Normand Giroux, qui était directeur général de l'Institut Nazareth et Louis Braille et qui a vu toute l'importance de la technologie pour les personnes qui avaient une déficience visuelle. Et il faut savoir qu'à l'époque, on parle là, au milieu des années 80, 85, 86, il y avait déjà quelques produits en anglais qui fonctionnaient, des produits braille, des produits de synthèse vocale, mais il n'y avait rien en français. Et à l'époque, Normand Giroux avait vraiment cette vision. C'était quelqu'un qui croyait en la technologie et en les possibilités de cette technologie pour les gens, pour aider les gens à lire, à écrire, à poursuivre leurs études, à travailler dans des milieux de travail. Et c'est dans ce contexte-là que moi, j'étais un jeune ingénieur à l'époque. Je travaillais pour une firme d'ingénieurs conseil en télécommunications et un bon jour, j'ai vu dans une revue spécialisée en informatique une annonce de l'Institut Nazareth et Louis Braille qui recherchait des consultants en télécommunications pour les aider à connecter des appareils entre eux, à faire des choses, donc avec des appareils qui venaient des États-Unis pour aider les personnes aveugles au Québec. Et moi, bon, on a présenté notre candidature, on a gagné. Et puis, par la suite, bien, de fil en aiguille, là, ça a duré un an et demi. Mais effectivement, Normand Giroux est venu me voir et il m'a demandé si j'étais intéressé à démarrer une entreprise dans le domaine avec une idée de projet. On avait déjà ensemble conçu un premier produit sur papier. Et puis, l'Institut nous a aidé à démarrer ce premier produit, à développer ce premier produit, nous a aidé financièrement et à l'aide des connaissances qu'ils avaient à l'intérieur de l'Institut. Et c'est comme ça qu'on a conçu un premier produit qu'on a mis en marché en 1988-89.
Quel était ce produit?
En fait, le premier produit qu'on a développé, c'est un produit qui s'appelait Iris. Éric va se souvenir de ça. Et probablement plusieurs de vos auditeurs. On a développé un produit qui permettait pour la première fois à des personnes aveugles de lire de façon autonome. C'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui, ça paraît simple, mais de prendre une page imprimée, une lettre qu'on reçoit par la poste, de la mettre dans un numérisateur et de pouvoir se la faire lire à haute voix immédiatement. À l'époque, ça relevait peut-être pas du génie, mais certainement, en tout cas, de oui. Beaucoup de travail parce que, de la synthèse vocale, c'était une voix robotisée beaucoup plus. Quand on parlait de la reconnaissance des caractères, c'était quelque chose qui demandait beaucoup de puissance, beaucoup de mémoire qu'on n'avait pas dans les ordinateurs à l'époque. Et c'est pour ça que ce produit-là coûtait 15 000 $ à l'époque. Et aujourd'hui, on fait la même chose avec un téléphone et un logiciel qui est gratuit.
Quand le directeur général vous a proposé de démarrer une entreprise, à l'époque, vous n'étiez pas entrepreneur. Alors, ça devait être quand même tout un défi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de relever ce défi-là?
C'est une bonne question parce que effectivement, à l'époque, rien qui me prédestinait à être un entrepreneur. Je pense, par contre, qu'il y a certaines caractéristiques, on pose souvent cette question-là, certaines caractéristiques profondes dans un être, dans son développement, qui font en sorte qu'il va prendre le leadership facilement, il va prendre la responsabilité qu'on lui donne. Et je me suis aperçu a posteriori qu'effectivement, quand on me donnait une mission, je la prenais sur mes épaules et je partais avec ça. Et je pense que Normand, qui était un psychologue, un fin psychologue d'ailleurs, s'est aperçu assez rapidement que même si j'étais jeune à l'époque, qu'il y avait quelqu'un devant lui qui était prêt à prendre ses responsabilités-là.
C'est une formidable histoire. Monsieur Houle, votre travail, vous êtes représentant aux ventes chez Humanware.
Oui.
Votre travail vous amène, bien entendu, à rencontrer des gens qui sont en déficience visuelle. Vous avez vous-même une pathologie de déficience visuelle. Qu'est-ce que c'est exactement?
Moi, je suis un albinose. Dans le fond, c'est comme on est né, si on veut, comme pas de couleur, hein, d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on a la pigmentation, le très, très pâle. La plupart des albinos ont toujours une maladie des yeux qui suit, comme j'ai une myopie forte de l'œil droit aussi, puis j'ai le nystagmus. Mais nous, on est nés comme ça, comparativement à d'autres personnes qui peuvent, en vieillissant, avoir d'autres maladies. Mais pour ma part, moi, je suis né comme ça.
Quelle est votre approche envers justement la clientèle? Vous devez avoir une approche empathique totale. Vis-à-vis des gens que vous côtoyez, que
c'est
vous
sûr et certain, parce que c'est dans la vie de tous les jours, hein, que ça peut être faire l'épicerie, faire le ménage à la maison. Les gens, des fois, ils pensent pas à ça, mais quand on a un handicap visuel, quand moi je fais le ménage chez moi, c'est d'une façon, puis pour une autre personne, ça peut être une autre façon, parce que son handicap est plus sévère ou parce que, fait que chaque personne, on se trouve des trucs avec les temps et les années pour être capable de fonctionner. Fait que c'est sûr que quand il y a des gens qui viennent me voir, je comprends très bien leur situation, mais je le fais surtout où est-ce qu'eux, ils sont. Ça, c'est bien important parce que chaque personne est différente, surtout les gens qui sont en basse vision. Il n'y a pas personne qui voit de la même façon. Ça, c'est important qu'on comprenne bien ça. Puis un truc pour une personne, ça ne veut pas dire que ça va être bon pour une autre personne. Alors, c'est bien important pour moi que quand les gens viennent me voir, c'est de bien cibler les besoins. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand le client il va partir, il va être content, puis on va y avoir trouvé quelque chose qui va l'amener à l'autonomie. Puis c'est ça qui est important pour moi.
Monsieur Pepin, Humanware est devenu une entreprise de classe mondiale. Donc, vos produits sont offerts dans plus de 50 pays à travers le monde. Comment on arrive à un succès aussi important?
Écoutez, je pense que d'abord, pour nous, l'exportation de nos produits, ce n'était pas nécessairement un plan d'action, c'est une nécessité. C'est-à-dire que, heureusement, la population qui a une déficience visuelle, on parle de moins de 2% de la population, qui s'attend à changer, mais c'est quand même encore à peu près comme ça. Et lorsqu'on arrive à mettre autant d'argent en recherche-développement pour développer des produits, on se doit d'exporter ces produits-là, donc de les vendre partout dans le monde. Et nous, on a commencé petit pas par petit pas. Hein. On a le premier produit dont je parlais, Iris, on a commencé à le vendre en France assez rapidement, parce que c'était le premier produit francophone qui pouvait lire à haute voix comme ça. Et après ça, bon, en Suisse, en Belgique. Et de fil en aiguille, ben, on s'est monté un réseau de distribution. On a attaqué les États-Unis. Parce qu'il y avait des produits aux États-Unis anglophones, mais on pensait qu'on avait aussi des fonctions qui étaient plus intéressantes que certains autres produits. Donc, on a continué comme ça. Et rapidement, par contre, on s'est dit, on a remarqué qu'on n'était pas plus fou que personne. On était capable de développer des technologies, des produits intéressants qui étaient de classe internationale. Nos compétiteurs faisaient bien, mais on était capable de faire au moins aussi bien qu'eux. Donc on a continué, on a développé des produits, un derrière l'autre, et puis on s'est imposé là, à travers un réseau de distribution à l'international.
Quand vous dites que vous avez développé des produits un par derrière l'autre, des exemples de produits autres que Iris que vous avez développés?
Écoutez, par exemple, au début des années 90, on a commencé à travailler sur un produit qui était le premier magnétophone numérique dans le monde, un produit que certaines personnes vont se rappeler aussi qui nous écoutent, qui s'appelait Magnum pour magnétophone numérique. Et de cette idée-là, on a développé un produit, mais par la suite, puis on est chez Vue et Voix ici, par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait un marché pour le remplacement des livres sur cassette vers le numérique. Donc, ce premier produit Magnum était vraiment l'ancêtre de la gamme des Victor, des produits
qu'on connaît aujourd'hui,
que tout le monde utilise aujourd'hui pour lire des livres numériques, des livres audio numériques. Et évidemment, on a commencé, on a eu un succès énorme dans le monde. Hein. On a vendu plus de 750 000 Victor à travers le monde. Donc, sous toutes sortes de formes, dans toutes sortes de pays. On doit en vendre dans une cinquantaine de pays, à peu près 25 langages différents, tous les menus et tout ça, de la synthèse vocale, tout ça dans une 20, à peu près 25 langues différentes dans le monde. Donc, ça, c'est un exemple de produit, mais on a travaillé aussi sur des produits qui permettent, des produits GPS, qui permettent d'assister le déplacement des gens qui ont une déficience visuelle. On a développé des produits de basse vision qui permettent de pouvoir regarder en plus gros caractères des documents. Plus récemment, bien, on a développé toute la gamme Prodigy, qui est une gamme d'appareils numériques, vraiment de la prochaine génération des appareils qui permettent aux gens qui ont une déficience visuelle, une basse vision, de lire des documents, de les faire lire à haute voix, de pouvoir se déplacer à l'intérieur d'un document. Donc,
Alors, vous, Éric, vous nous avez indiqué que vous êtes le 15e ou 18e employé?
À l'époque, j'étais le 18e employé. Je pense que c'était en 95, si je me souviens bien. Ça fait 20 ans là, que je travaille pour HumanWay. Oui, j'étais le 18e employé, mais voyez-vous, ça l'a beaucoup grandi là, avec les années, là, vraiment. Là.
Et est-ce que votre travail vous a amené à développer une ligne en particulier ou vous représentez l'ensemble des produits de HumanWay?
Moi, je représente l'ensemble des produits là, de HumanWay. Je fais de la formation, je fais aussi la vente aussi là, de ces produits-là, mais pas seulement la base de vision, je fais aussi les produits Braille aussi.
Ça doit être, on parlait d'approche tout à l'heure, vous devez avoir, quand vous réalisez, bon, représentant des ventes, ça fait des ventes par définition,
oui.
Mais vous devez avoir un sentiment exceptionnel d'aider les gens parce que ces produits-là permettent une nouvelle vie en bout de ligne à ces gens-là.
Oui, absolument. Mais comme je disais tantôt un peu, c'est dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on veut que les gens soient autonomes. Hein? Puis c'est ça qui est le plus important. C'est parce que quand on développe un produit, on dit, bien, telle personne qui a tel type d'handicap, on veut qu'il soit être capable de se fier tout le temps à une autre personne, être capable. Tu sais, tantôt, on parlait de la numérisation. Souvent, on voyait, c'était, mettons, les gens attendaient que ce soit le frère ou la mère qui vienne lire la lettre qu'elle a reçue. Mais aujourd'hui, Gilles parlait de Prodigy ou Iris, mais on numérise le document, donc on est autonome à ce moment-là. Fait que c'est ça qu'on fait là, chez HumanWay, c'est qu'on développe des produits pour que les gens qui ont un handicap visuel, avec le temps, deviennent de plus en plus autonomes. Ça, c'est super important.
Comment vous vous inspirez pour le développement des produits? Est-ce que c'est via les besoins de la clientèle ou vous avez un comité recherche et développement? Ou...
Oui, on a des processus complexes pour faire ça. Mais effectivement, on essaie, via des gens comme Éric qui ont une connaissance fine des besoins des usagers, on demande à nos gens de vente de nous rapporter cette information-là. On a une équipe marketing qui analyse les besoins, mais ce n'est pas uniquement les besoins. Hein. On regarde bien sûr les besoins, c'est très important, mais de l'autre côté, on regarde les technologies émergentes aussi et voir comment ces technologies émergentes peuvent s'intégrer dans un produit qui va vraiment aider les personnes aveugles. Donc, on n'a pas... Il y a un processus, mais ce processus-là, il ne faut pas que ce soit une ligne droite. Il faut que ce soit un petit peu d'input de toutes sortes de côtés qui génèrent des idées créatives. Là.
Vous êtes également dans un domaine qui se développe très rapidement, j'imagine, au niveau de la nouvelle technologie. Donc, vous connaissez l'avenir avant nous, d'une certaine façon.
pas vraiment.
On aura l'occasion d'ailleurs de parler tantôt de quelque chose d'intéressant. Mais avant de passer à la première petite pause, M. Hull, ça fait 18 ans. C'est quoi le constat que vous faites après 18 ans? Toute cette évolution peut-être qu'il y a eu autour de...
Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup avec les années, c'est que si on se remet un petit peu dans le temps, les produits, quand on arrivait avec un produit sur le marché, comparativement au marché grand public, on était en retard au niveau de quelqu'un qui avait un handicap visuel. Puis on parle, ça pourrait parler d'une année ou deux, là, tu sais. Mais maintenant, aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, par rapport à la question de la recherche et développement, aujourd'hui, qui n'a pas une tablette ou un téléphone intelligent dans le marché grand public? Alors nous, ce qu'on a fait dans la dernière année ou dans les deux dernières années, on a développé une tablette adaptée. Alors, tantôt, on parlait de qu'est-ce qu'on développe, mais aussi par rapport au marché. On s'essaie de s'ajuster au marché, mais aujourd'hui, une personne aveugle a accès à une tablette au même type que vous avez accès présentement, en braille et en sonore. C'est un produit qu'on a lancé l'année dernière. Donc, la différence entre une dizaine d'années et maintenant, mais la personne qui a un handicap visuel a accès à la même chose que vous, mais beaucoup plus rapidement.
On va faire une petite pause et on est de retour tout de suite après avec une personne, parce que c'est notre habitude dans notre émission de recevoir un membre du personnel de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Alors, dans quelques instants, on reçoit Mme Rebecca Henry. De retour à notre émission Point de vue sur Canal M. Pour nous parler de l'Institut Nazareth et Louis Braille, nous recevons aujourd'hui Mme Rebecca Henry, qui est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle au programme de surdicécité. Ça, c'est quelque chose, c'est un mot difficile. C'est un mot difficile. Et Mme Henry, vous allez nous expliquer d'entrée de jeu qu'est-ce que c'est que la surdicécité.
Oui, bonjour.
Bonjour.
En fait, la surdicité, c'est un programme spécifique à l'Institut Nazareth et Louis Braille où on reçoit les gens qui ont et une atteinte déficience visuelle, mais également une atteinte auditive dans différents facteurs. Ça fait qu'on a vraiment une équipe spécialisée où que la moitié des intervenants sont composés de gens de l'Institut Nazareth et Louis Braille, donc le volet visuel, mais aussi une autre moitié de l'équipe qui est de l'Institut Raymond Devoir, où que eux sont spécialisés dans le volet plus auditif. Donc, on travaille vraiment en équipe pour mieux répondre aux besoins des usagers.
L'impact de l'éclairage sur les gens atteints de déficience visuelle est majeur, je crois. Oui. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous observez dans ce sens-là?
Mais je vous dirais, ça dépend vraiment de chaque personne, puis ça dépend vraiment de chaque milieu, parce que l'éclairage, on le voit partout. C'est que c'est vraiment, il faut spécifier avec des gens qui ont une basse vision. Souvent, les gens en cécité complète, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on va travailler, mais on va vraiment regarder avec les gens au niveau de leur résidu visuel l'impact de l'éclairage. Donc, en soi, comme intervenante, ce que je remarque presque à tous les fois, il y a vraiment trois gros volets. Le premier, c'est vraiment en termes de l'intensité d'éclairage. Donc, est-ce qu'il y a assez d'éclairage là où est la personne? Souvent, on va à domicile. Donc, souvent, on va chez les gens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas assez d'éclairage. C'est la plus grande observation qu'on peut faire. Et ainsi de suite aussi, c'est les sources d'éblouissement. Des fois, on va chez les gens, il y a assez de lumière ou pas, mais par exemple, une fenêtre qui est mal placée ou une lampe qui a l'ampoule, mais pas de lampadaire. Donc, elle va créer une source d'éblouissement. Donc, on va dire, oui, il y a de la lumière. Par contre, cette lumière-là, elle nuit. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre, l'éclairage. Donc, on veut de la lumière sur ce qu'on fait, mais on veut aussi éviter les situations d'éblouissement qu'on retrouve dans le milieu de la personne. Puis, il y a aussi tout le facteur de l'environnement. T'sais, on peut aller chez les gens à domicile, on peut aller à l'école, en milieu de travail, en garderie. C'est vraiment partout.
Est-ce que c'est nouveau qu'on prenne soin de l'éclairage?
En fait, c'est une bonne question parce que juste à l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est toujours quelque chose qui a été adressé, mais de plus en plus depuis, je vous dirais que je suis arrivée peut-être vers 2011, on s'est vraiment penché sur le sujet de l'éclairage et on a beaucoup développé nos outils d'évaluation, les outils avec lesquels on va faire nos prises de mesure, nos recommandations, le matériel, parce que comme vos invités avant, on parlait de l'évolution de la technologie et tout, mais juste en termes d'éclairage, quand on va parler de différents types d'ampoules, on voit des différences au travers des années, incandescentes versus fluo compact versus les DEL, on pourra en reparler, mais c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus puis qu'on se spécialise aussi à l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Comment vous faites pour faire un diagnostic?
Par diagnostic, vous voulez dire comme mon évaluation?
Exactement.
En fait, ça va dépendre du contexte, mais la majorité du temps, c'est à domicile. Donc, je vais aller faire mon évaluation disciplinaire. Donc, moi, Rebecca, je m'en vais évaluer la personne en lien avec ses difficultés qui ont été évaluées. Donc, par exemple, difficulté de lecture. Donc là, je vais me rendre chez la personne, puis hop! Je constate que la personne, elle a peut-être un manque d'éclairage. Fait que je vais prendre souvent peut-être des photos avec le consentement de la personne, puisqu'après, moi, il faut que je fasse mon rapport, puis il faut que je me souvienne de où sont les sources d'éclairage, il y en a combien, quelle couleur. Donc, c'est vraiment avec des outils. On a un luxmètre qui est un outil qui nous permet d'évaluer le nombre de lux, donc l'intensité d'éclairage qu'on a chez les gens. Donc, ça nous donne un chiffre et ça nous aide beaucoup à vraiment... évaluer de façon objective l'éclairage chez une personne.
Donc, il n'y a pas une recette prédéterminée pour l'ensemble des usagers.
Exactement.
C'est vraiment cas par cas.
C'est cas par cas. Il y a des tendances, je vais vous avouer, il y a quand même des tendances selon certaines pathologies. Par exemple, des gens vont dire qu'il y a une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Souvent, quand on arrive chez les gens, on constate qu'ils n'ont pas assez d'éclairage puis on a besoin d'ajouter de l'éclairage. Mais c'est vraiment du cas par cas. Souvent, les gens vont dire « Ah, tu sais, il faut ajouter une ampoule très blanche ». Oui, ça peut aider, mais pour la personne, peut-être qu'elle est facilement éblouie. Peut-être qu'elle a besoin d'augmenter les contrastes, puis que c'est vraiment du cas par cas, ou que nous, on va faire des tests avec la personne. On va évaluer différents types d'ampoules, différents types d'éclairage, qu'est-ce qui lui convient le mieux pour ensuite lui remettre des recommandations qui répondent à ses besoins, sa vision et le contexte dans lequel il se retrouve.
C'est important parce que les conjoints pourraient avoir tendance à mettre plus de lumière alors oui. que ce n'est pas nécessairement la solution.
Tout à fait.
Donc, parlons justement du type de recommandations que vous faites ou les stratégies que vous suggérez pour corriger la situation. Ça a l'air de quoi?
Oui, c'est très large parce que ça va dépendre vraiment de la situation. Mais si on reprend, je parle de l'éclairage en situation de lecture, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on peut le voir dans tous les aspects, toutes les habitudes de vie de la personne. Donc, que ce soit préparé à manger, dans la cuisine, sous le comptoir, il y a assez d'éclairage sur ce que la personne fait. Dans les armoires, est-ce qu'elle se retrouve? Les vêtements, quand on ouvre le garde-robe, il y a assez d'éclairage, on le voit dans tous les volets, à l'informatique, à l'ordinateur, est-ce que le clavier est assez bien éclairé? Donc, on est en termes de stratégie, ce qu'on va surtout suggérer aux personnes dans nos recommandations, c'est souvent, est-ce que c'est du plus simple? On voit vraiment du plus simple. Donc, est-ce que dans son environnement actuellement, il y a quelque chose qu'elle peut changer, déjà en partant? Souvent, il y a une petite lampe qui traîne à quelque part dans un bureau qu'on peut aller chercher et ajouter un éclairage d'appoint, donc spécifique à la tâche que la personne fait. Si on évalue qu'il y a une ampoule qui est mieux que l'autre, bien, peut-être que la personne l'a déjà chez elle. Donc là, on va aller chercher ça, ce qu'elle a déjà dans son environnement. Et sinon, bien là, c'est qu'on fait des recommandations de, ça peut être des lampes, des types d'ampoules. Ça peut être des rallonges qui rendent les ampoules gradables ou qui rendent la lampe gradable. Ça peut être aussi dans l'environnement, par exemple, une source d'éclairage qui est trop éblouissante. Bien là, ça peut être d'ajouter un revêtement devant, un rideau, ça peut être un film. Dans un milieu de travail, ça peut être justement de mettre une plante devant la source.
Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, parce que des fois, de faire un gros changement d'éclairage, c'est quand même onéreux, il y a des frais. Donc la personne, quand on pense à la personne qui a une déficience visuelle, il faut aussi penser aux autres personnes qui sont autour. Oui. Donc, il y a un équilibre à trouver. Donc des fois, oui, juste mettre une plante fait que ça cache la source de lumière. La personne peut continuer à travailler, puis ça ne dérange pas les autres.
Vous faites également l'évaluation en milieu de travail pour faire des adaptations?
Oui, tout à fait. Dans tous les milieux. Ça peut être milieu de travail, scolaire, garderie, à la maison. C'est dans toutes les habitudes de vie, tous les milieux.
Je suis curieux de parler d'ampoules parce que on a toutes sortes de y a toutes sortes de choses dans ça. Alors où on est rendu avec les watts, les lumens et les kelvins?
Les kelvins.
Qu'est-ce que c'est les kelvins?
Les kelvins en fait c'est une mesure, ce qu'on appelle la température de couleur. Donc maintenant quand vous achetez une ampoule, vous allez souvent la retrouver sur l'information sur la boîte, c'est le K. Un petit degré et un K, ça va me dire est-ce que l'ampoule va être plus jaune ou est-ce qu'elle va être plus blanche? Comme par exemple, juste ici dans la pièce, je vois qu'il y a des ampoules qui sont plutôt blanches, plus lumière du jour. Donc, j'ai tendance à dire que ça va être une ampoule qui va avoir 4000 Kelvin. Donc, admettons, plus le chiffre est bas, plus la lumière va être jaune. Température, on va aussi dire qu'elle est blanc chaude. Donc, elle est plus jaune. On va dire qu'elle est blanc froide, elle est plus blanche. La lumière du jour va être plus dans les environs 3000-4000, dépendamment du fournisseur. Donc, les Kelvin, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à entendre parler ou qu'on retrouve qu'on voit souvent dans les magasins, mais sont sur l'emballage. Ça fait que ça, on le retrouve. Et maintenant, quand on parle de lumens et de watts, souvent, en tout cas, je sais que moi, mes grands-parents, quand ils me parlent d'ampoules, c'est en termes de watts. Moi, j'ai une 60 watts, moi, j'ai une 100 watts. Mais ça, c'est la consommation électrique. Donc, dans le fond, si je mets une 100 watts incandescente, donc les vieilles ampoules transparentes, dans ma lampe, ben ça va donner une intensité de lumière. Mais eux autres, c'est le comparatif. C'est une 100 watts, c'est une 60 watts. Moi, aujourd'hui, ça a changé. On a vu avec les fluos compacts, ceux qui sont comme torsadés, qui ressemblent... Oui, il y a plein de comparatifs, mais un cornet de crème glacée où ils sont spiralés. Eux autres vont consommer moins d'électricité, mais ils vont donner le même rendement. Ça fait qu'on le voit, la fluo compacte, elle consomme 13 watts, mais elle émet la même chose que, par exemple, la 60 watts. C'est que pour les personnes, c'est important de comprendre. Ils disent, ouais, mais moi, je mets du 60 watts. Mais oui, mais ça donne la même chose, c'est la 13 watts, mais elle donne la même chose que la 60 watts. Donc, c'est plus économique et elle dure plus longtemps aussi.
Est-ce qu'il y a des... on parle des lumières d'ailes, entre autres, et tout ça. Est-ce qu'il y a une lumière idéale ou si c'est vraiment... ça dépend vraiment de l'environnement, de l'espace... de l'éclairage, du soleil, enfin, il y a beaucoup d'éléments quand vous faites un diagnostic.
Oui, c'est multifactoriel, parce que juste pour vous donner une idée, on parle d'une fenêtre, l'été, il y a un arbre devant la fenêtre. L'été, il va y avoir des feuilles, donc moins d'éclairage, mais l'hiver, les feuilles tombent. Là, à ce moment-là, il y a de la neige, donc il y a beaucoup plus de lumière, parce que là, ça reflète, il n'y a plus de feuilles, puis ça reflète beaucoup sur la neige. Mais justement, par rapport aux ampoules, c'est sûr qu'il y a des tendances. On va justement suggérer peut-être plus des ampoules gradables. Comme ça, la personne peut l'ajuster elle-même selon la journée, selon l'éclairage qu'elle se retrouve, selon sa déficience visuelle cette journée-là. Donc, allez-y pour une ampoule qui est gradable. C'est ce que je peux vous suggérer. Et là, pour la température de couleur, souvent, on fait le test avec vous. Vraiment, dans cette situation-là que vous vous retrouvez avec une difficulté, lequel est l'idéal pour vous? Une plus blanchâtre, une plus lumière du jour, une plus jaunâtre. Et maintenant, on retrouve même des lumières que la même ampoule peut aller du jaune au blanc. Ça, c'est vraiment tout nouveau. On le retrouve, on voit aussi des ampoules qui changent de couleur, du rouge, du mauve, du vert. Ça, c'est très peut-être plus disco à ce moment-là. Mais on va rester, nous, dans le blanc, le jaune et la lumière du jour.
Et ces ampoules-là sont disponibles grand public ou il faut aller dans une boutique spécialisée?
Non, c'est grand public. Nous, quand on fait les recommandations, c'est vraiment des endroits que les gens peuvent aller, peuvent retrouver les ampoules sans problème. Nous, à l'Institut Nazareth et Louis Braille, on peut recommander des lampes, mais on est limité au nombre. Donc, souvent, on va remettre des recommandations vraiment spécifiques dans l'environnement où la personne se retrouve.
Il y a encore une recherche qui se fait à l'Institut Nazareth et Louis Braille concernant l'éclairage. C'est comme on dit en français, un work in progress, là, dans le sens que les choses évoluent. Oui. Et l'Institut est constamment à l'affût là, de recherche dans le cadre de l'éclairage.
Tout à fait. Il y a de la recherche. Il y a même un comité d'éclairage à l'Institut Nazareth-Louis Braille où on a un intervenant de chaque programme qui se penche sur les nouveautés, comment fonctionner, comment évaluer, comment vraiment rendre les services le mieux adaptés pour l'usager. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on veut, que la personne puisse reprendre l'autonomie. Avec l'éclairage qui lui est le plus bénéfique.
Ça doit être une grande satisfaction pour vous de... Parce qu'en bout de ligne, une simple ampoule peut changer une vie.
Oui, on le voit. C'est vraiment bien, c'est vraiment merveilleux de voir la personne, comment elle évolue et regagner son autonomie, en fait, avec que ce soit une simple ampoule ou d'autres choses. Oui.
Rebecca Henry, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle au programme de surdicécité de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Merci d'être venu à notre micro. Très intéressant.
Merci beaucoup pour l'opportunité.
Merci. À bientôt. Notre rendez-vous hebdomadaire avec notre marraine, la marraine de la Fondation En Vue, Mme Pauline Martin, bonjour.
Bonjour, Michel.
La semaine dernière, nous avons discuté, vous avez apporté des conseils très, très précis, très, très pratiques. On va continuer un petit peu dans cette ligne de pensée pour la chronique de cette semaine.
Oui. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur des choses extrêmement pratiques. Ça concerne le milieu de vie de la personne. Par exemple, moi, je suis très heureuse aussi, encore une fois, de trouver tous ces excellents conseils parce que on a évidemment notre mère qui vivait avec la déficience visuelle. On a essayé de lui apporter le plus possible de soutien. Ce sont souvent des petits gestes, par exemple. Au niveau de son bain, pour éviter qu'elle ne glisse. Tu sais, les bandes qu'on met dans le fond du bain, là, parce oui. que, bon, les tapis de bain, on aime moins ça parce que si la personne, ça l'oblige à le nettoyer trop de temps parce que il peut accumuler de la moisissure et tout ça. Donc, on essaie d'éviter ce genre de choses-là parce qu'on ne veut pas avoir que notre mère aille à nettoyer son bain tout le temps, et surtout d'éviter les microbes. Et moi, j'avais eu l'idée de prendre des bandes à coller dans le fond du bain, mais au lieu de les mettre dans le sens de la longueur sur le long du bain, là, je les ai mises de travers. Alors, ça lui donnait une meilleure stabilité. Alors, aujourd'hui, j'ai plein d'autres petits conseils comme ça à vous donner pour aménager les lieux de la personne que vous aimez qui a des problèmes de vision.
On vous écoute.
Alors, les moses de carpet.
Oui.
Les fixer. C'est simple. On prend avec un ruban adhésif à double face parce qu'il y a énormément de chutes qui sont dues à ça. Alors, la chose à faire rapidement. Les planchers trop cirés, c'est de toute beauté pour la visite, mais c'est du plus grand risque pour la personne qui habite la maison. Les meubles, les plantes, mettez-les le plus possible, évidemment, le long des murs. Ayez le réflexe toujours de ranger vos choses. Si vous arrivez chez votre parent ou votre ami en déficience visuelle, laissez pas votre sacoche dans l'entrée, votre petite valise. Bonjour papa, bonjour maman, je laisse ma valise là. Maman, papa s'en fâche dans la valise. Toujours penser à dégager le parcours de la personne.
Ça peut avoir des conséquences très graves.
Oui, ben oui.
Très, très graves.
Oui, parce qu'on le sait, la personne qui est en déficience visuelle, on en a déjà parlé, elle peut difficilement se protéger parce qu'elle ne sait pas vers quoi elle tombe. Est-ce qu'elle tombe vers un fauteuil à roulettes? Est-ce qu'elle tombe au coin d'un meuble avec un angle, tu sais, un coin de bureau? Mm-hmm. Alors, oui, effectivement, prendre les habitudes de faire ça. Les rampes d'appui où elles sont nécessaires, bien vérifier que la sécurité pour la descente de l'escalier, pour les corridors, que les, tu sais, s'il y a des petites choses à marquer pour lui permettre de savoir que c'est la fin du mur, tu sais, il y a toutes sortes de petits trucs qu'on peut trouver. Évidemment, les barres d'appui dans la salle de bain, on y pense tout de suite. Les marches d'escalier, c'est une bonne chose de les rendre plus sécuritaires pour la personne un petit peu en perte de vision. Parce que si elle a un petit pas qui est un peu plus long, mais que vous avez mis une bande antidérapante, ça va la protéger de ce petit pas qui était peut-être un peu trop long.
Et on peut mettre des couleurs aussi pour identifier le haut et le bas. Ça,
ben oui, parce que, comme on le disait, ce ne sont pas toutes des personnes aveugles, ce sont des personnes qui peuvent saisir certaines choses, entre autres les bandes, effectivement, de couleurs vives. Alors, si vous mettez une bande de couleurs vives dans le haut de l'escalier... et une dans le bas, mais la personne, c'est un repère visuel pour savoir qu'elle a 5, 6, 7 marches, elle sait quelle longueur d'escalier dans lequel elle s'engage. Les contre-marches, ça, c'est pas mauvais de donner une idée aussi de la contre-marche. Est-ce qu'elle a 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces? Parce que ça, pour avoir un bon appui, c'est important de savoir à quelle hauteur tu lèves ta jambe. Mm-hmm. C'est comme ça que tu vas te sécuriser. Réduire la hauteur des seuils de porte, ça, c'est un autre point. Les seuils de porte, ils se vendent, là. Les quincaillers se fendent le derrière pour en vendre. Des façons d'atténuer la pente de votre seuil de porte. Si vous ne pouvez pas le réduire, c'est un peu plus de trouble, évidemment, si vous l'aplanissez. Les éclairages d'escalier, les éclairages d'entrée, ça, c'est extrêmement important. Ça aussi, c'est facile de trouver sur le marché des choses qui vont sécuriser tout ça. Laissez une veilleuse dans la chambre, parce que la personne... juste pour qu'elle ait un premier repère quand elle ouvre les yeux, pour savoir où est-ce qu'elle est dans la chambre. Et évidemment, consulter un spécialiste en orientation et mobilité pour avoir plus d'informations. Ici, si la personne a les services de l'INLB, ils se déplacent, ils vont à la maison, ils vont compléter ce que vous aurez déjà fait. Et je terminerai en parlant d'un guide qui comprend encore plus d'informations que celles que je vous ai données depuis la semaine dernière. Ça s'appelle « Accompagner et guider une personne ayant une déficience visuelle ». Ça a été produit et ça a été publié en 2005 par l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et c'est disponible en ligne. On peut le trouver en ligne ou on peut l'avoir dans les points de vente et les points de service de l'Institut.
Donc, ça vaut vraiment le coup de faire des efforts pour s'informer, aller chercher les informations pour aider la personne dans notre entourage qui est en déficience visuelle, parce qu'on va éviter beaucoup de problèmes.
On va éviter beaucoup de problèmes. Et dites-vous que la personne... Vous savez, les personnes âgées vont toujours dire « Non, non, laisse faire.
Oui.
Non, garde.
On ne veut pas déranger.
On ne veut pas déranger. Oui. Bien, ça dérange plus quand vous vous blessez. Ça dérange plus quand vous êtes anxieux. Alors, soyons à l'aise de se rendre service, de se donner ces services-là. Et c'est une façon aussi de dédramatiser la situation, de tomber dans les conseils pratiques. Soyons pratico-pratiques, ça atténue le drame et ça évite aussi les drames.
Merci, Pauline.
Merci.
Sur Canal M, l'émission Point de vue, on est de retour avec nos invités, Gilles Pepin, président de Humanware, et Éric Houle, représentant des ventes.
Monsieur Houle, quand on a fait votre présentation en début d'émission, on a mentionné que vous avez participé à deux Olympiques, deux Paralympiques.
Deux Paralympiques.
Alors, c'est rare qu'on a avec nous en studio une personne qui a gagné une médaille aux Olympiques. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a amené à vous entraîner pour justement les Paralympiques?
Ça a commencé, il y a une équipe de hockey sonore qui existe ici au Québec qui s'appelle les Bouts de Montréal. Moi, je jouais au hockey, ça se joue avec une canne, tout ça. on joue sur glace et il y a quelqu'un de cette équipe-là qui me disait, Eric, j'aimerais ça que tu viennes essayer le goalball, tout ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé au début. Puis là, je ne savais pas trop, j'aimais beaucoup le hockey. Fait que je suis allé essayer, puis j'ai pogné la piqueur, puis j'ai jamais arrêté pendant 13 à 15 ans. Là, j'ai joué là, suite à ça.
Vous vous êtes entraîné en même temps que vous travaillez?
Absolument. Ça prenait une organisation là, vraiment. Hors pair, parce que je faisais mes journées de travail, puis ensuite de ça, j'allais m'entraîner à tous les soirs. Quand on est ce qu'ils appelaient cardé par Sport Canada, hein, qu'on appelle, ce que ça veut dire, ça donne accès à plein de choses, là, à médecins, physiothérapeutes, au niveau de la nutrition aussi beaucoup. Puis Sport Canada nous donnait des sous pour pouvoir nous entraîner. Et donc, ils nous demandaient aussi, puis c'était bien correct aussi de dire un minimum d'entraînement. Moi, je m'entraînais un minimum de 20 heures semaine. Là. Alors, j'étais à chaque jour à l'entraînement. Quand je finissais de travailler, là, tout de suite après, je m'en allais à la salle d'entraînement, puis je trouvais plein de façons. Tantôt, je disais que je trouvais des façons du côté pour l'handicap visuel, pour des choses, mais à l'entraînement, je l'ai appliqué aussi. J'avais deux salles d'entraînement pour varier le plus possible, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'entraînement, mais j'essayais de varier le plus possible mon entraînement pour avoir le plus de plaisir possible à le faire. Mais je me suis entraîné 20 heures par semaine là, pendant plusieurs années.
Comment on concilie entraînement et vie professionnelle? Parce que ça fait beaucoup d'heures en bout de ligne.
Oui, c'était beaucoup d'heures, mais honnêtement, il faut dire qu'à ce moment-là, mon employeur était très compréhensible aussi parce que je partais, oui, on a fait des Paralympiques, mais j'ai fait des championnats du monde aussi, j'ai fait des championnats canadiens, j'étais allé dans des tournois à invitation en Europe. Alors, pendant ce temps-là, j'étais pas à mon travail aussi. Hein. Alors, il fallait que mon employeur soit aussi compréhensible à ce moment-là, mais c'est pour être bien honnête, puis merci beaucoup encore à Gilles aujourd'hui. Les Manoirs ont toujours été en arrière de moi là, par rapport à ça. Là. En fait, ça a été vraiment un gros point pour moi, là.
Et vous avez gagné une médaille d'or à Atlanta.
Oui, on était à ce moment-là, le goalball existe depuis les années 40 et c'est un sport paralympique. D'ailleurs, c'est des soldats qui avaient perdu la vue pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est eux qui ont inventé ce sport-là, surtout plus en Europe au début. Mais au Canada, chez les gars, on était la seule médaille olympique à Atlanta là, qu'on a gagnée là, à ce moment-là. Puis juste pour vous donner une idée, parce qu'on parle d'un sport paralympique, c'est pas beaucoup connu, mais à Sydney, on a fini 10e, donc Atlanta 2e. Les 12 équipes qui sont là, parce que c'est toujours 12 équipes aux Olympiques, au même type que n'importe quel autre sport, c'est la marge d'erreur, là, elle est très faible. Là. Toutes les équipes qui sont là, les 12 ont des chances de gagner. Là. Il n'y a pas trois équipes qui sont fortes, puis c'est 8 qui ne sont pas fortes. Là. C'est la compétition, là, elle est vraiment là, très, très forte. Puis, honnêtement, on a fait partie de l'élite. Là.
Est-ce qu'il y a une situation qui vous a marqué plus qu'une autre? Ou, t'sais, quand on fait deux Olympiques, avec quoi on revient?
Ah, il y a beaucoup de choses. Premièrement, quand on rentre dans un stade puis qu'il y a 50 000 personnes, je vais vous dire que ça fait tout un... C'est toute une histoire. Ouais. C'est quelque chose là, que c'est difficile à décrire parce qu'il y a beaucoup de bruit, les gens crient beaucoup. Jouer aussi. Le goalball, c'est un sport qui n'est pas beaucoup connu, mais quand on est allé à Sydney, il y avait 8 000 personnes dans les estrades qui voyaient nos matchs. Là. Ça aussi, c'était bien impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Mais c'est sûr que les gens en goalball, il ne faut pas qu'ils fassent de bruit, mais malgré tout, le 8 000 qui bougent un petit peu ou tout ça, il y avait quand même une différence à ce niveau-là. Puis c'était bien impressionnant. Les gens nous encourageaient gros. Puis il y avait beaucoup d'intensité là, dans les matchs. Là.
Et on revient de cette expérience-là, j'imagine, gonflée à bloc.
Ben,
en
c'est
termes
sûr.
D'attitude, en termes de positivisme.
Mais plusieurs choses. Une chose que j'ai remarqué beaucoup avec les années, c'est que j'encourage les gens à faire beaucoup d'exercices parce que ce que moi, je me suis aperçu, c'est que quand on est en excellente condition physique, mais j'ai l'impression que mentalement, on est beaucoup plus reposé, on prend les meilleures décisions. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué avec les années. Le fait de rencontrer des gens de d'autres pays qui ont d'autres handicaps, c'est complètement une autre culture. Hein? Tantôt, ici au Québec, on est chanceux. Il y a la RAMQ du Québec qui peut faire certaines attributions, mais il y a d'autres pays que il n'y a quasiment pas de choses là, pour les gens qui ont un handicap visuel. Ou il y en a d'autres qui c'est encore... c'est le gouvernement qui prend en charge là, les joueurs de goalball. Exemple, en Espagne, ils sont payés pour jouer au goalball là, quand même là, par l'association. Fait que c'est complètement différent, mais ça fait connaître plein d'autres cultures aussi. Fait que je suis chanceux parce que souvent... En ayant voyagé comme ça, mais c'est là qu'on s'aperçoit, puis j'en parle souvent à des gens aussi. On est chanceux de vivre au Québec parce que c'est une belle province, le Québec, là.
Monsieur Pepin, on revient avec vous. On va parler un peu d'intelligence artificielle. On parle de technologie. L'intelligence artificielle est utilisée à toutes les sauces. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle pour la déficience visuelle?
Mais d'abord, l'intelligence artificielle, c'est une... s'il y a une progression très rapide qui s'est produite au cours des deux dernières années. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de donner à l'ordinateur un niveau d'intelligence qui va lui permettre de prendre des décisions relativement importantes que les humains, ça paraît facile, mais vous comprenez que nous, ça nous a pris 10, 15, 20 ans avant de pouvoir prendre ces décisions-là, savoir identifier certaines choses, prendre des décisions. Et l'ordinateur a une capacité beaucoup plus grande que nous en termes de mémoire, en termes aujourd'hui avec, par exemple, l'interaction entre les différentes, entre les ordinateurs par l'Internet ou par le cloud, où on peut stocker de grandes, grandes quantités de données. L'ordinateur, lui, a accès à toutes ces données-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en intelligence artificielle partout dans le monde. Et on arrive à un point, mais il faut comprendre qu'il y a déjà des technologies d'intelligence artificielle qui sont intégrées dans ce qu'on fait à tous les jours, que ce soit notre téléphone aujourd'hui qui reconnaît le langage naturel, que ce soit de l'identification automatique d'objets ou de choses comme ça. Il y a plein de choses qui ont déjà commencé à être implantées. Ce qui va éclore actuellement, c'est cette capacité d'apprentissage qu'on va être capable de donner à l'ordinateur, d'apprentissage automatique, d'apprentissage qu'on appelle profond parce qu'on est en mesure de maintenant de lui donner à l'ordinateur de prendre une décision basée sur un grand nombre de facteurs. Donc, on arrive à la convergence de plusieurs de ces technologies-là. On a parlé beaucoup du big data dans les dernières années. Là, on arrive à une convergence de toutes ces technologies-là. Et plusieurs disent que l'intelligence artificielle va avoir un impact aussi grand que la venue de l'Internet, par exemple. Donc, c'est pas juste un autre buzzword, là, l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a vraiment un changement profond derrière ça. Maintenant, pour répondre à votre question, l'intelligence artificielle pour des aveugles ou pour les gens qui ont une déficience visuelle, les gens qui ont une basse vision, ça va avoir un impact encore plus grand et plus tôt dans le processus. C'est-à-dire que le besoin est tellement grand, par exemple, reconnaître les gens qui sont dans une salle, savoir que si je vous regarde, de savoir que c'est Michel Poulain qui est là, c'est important pour des gens qui ont une déficience visuelle, pouvoir arriver dans un restaurant puis identifier qu'il y a une table qui est libre dans le milieu de la pièce, c'est important pour une personne aveugle. Il y a toutes sortes de conditions, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles l'intelligence artificielle va être d'une aide énorme pour les gens. Donc, ce besoin qui est très fort nous amène rapidement à s'impliquer dans l'intelligence artificielle. Nous, chez HumanWare, on travaille actuellement avec les gens de l'Université de Montréal, IVADO, qui est l'Institut de valorisation des données, qui est tout ce qu'on entend parler à Montréal actuellement, Yoshua Bengio et son équipe, mais maintenant qui est rendu une grande équipe avec un laboratoire qui se développe rapidement et des connaissances là, de plus en plus pratiques qui vont être mises en pratique. Nous, on a commencé beaucoup à travailler là-dedans. Et ce qu'on peut penser, c'est que d'ici quelques années, on va voir des personnes aveugles qui vont se déplacer avec une paire de lunettes sur lesquelles il va y avoir une caméra et que la personne aveugle va pouvoir poser des questions au système. Donc, lui demander... Où est la porte de sortie? Qu'est-ce qu'il y a devant moi en ce moment? Description de scène, description d'objet, lecture. Hein? Prendre une feuille, la mettre devant la caméra des lunettes et se faire lire à haute voix un menu, par exemple, dans un restaurant. Détection, par exemple, des cas auxquels on pense. On se promène là où il y a des magasins, dans un mall où il y a des magasins. C'est difficile pour une personne aveugle de trouver le magasin qu'il cherche, mais avec ces lunettes-là, on pourra identifier les différents logos des différentes compagnies qui sont là et donc pouvoir dire, il y a tel magasin-là à ta gauche, à ta droite. Donc, il y a toutes sortes d'innovations. Ça ouvre vraiment des choses très, très larges pour les personnes aveugles.
Et en termes de temps, j'imagine que c'est à très court terme.
Bien, oui, mais il ne faut pas faire des promesses. Oui. Il faut faire attention parce que la technologie va être là, puis il y a des choses qu'on va voir à court terme. Mais vraiment, le développement de l'intelligence artificielle, ça va être sur une dizaine d'années. Là.
Messieurs, vous avez apporté avec vous une pièce musicale et bien sûr, vous avez des liens, vous privilégiez, M. Pepin, avec Stevie Wonder. Donc, c'était normal qu'on ait une chanson de Stevie Wonder, j'imagine.
Oui, ben, c'est ça. Stevie est venu lors du 25e anniversaire de Humanware. Stevie est venu nous rendre visite à Drummondville, à nos bureaux. Et on avait invité quelques personnes. Ma mère était là, entre autres, et Stevie avait chanté une chanson, avait chanté quelques chansons, mais avait chanté une chanson pour ma mère en particulier. C'est cette chanson-là qu'on va entendre.
On l'écoute.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup.
Alors, nous sommes de retour avec un ami de Stevie Wonder, on peut l'appeler comme ça, Gilles Pépin de Humanware ainsi qu'Éric Hull. On est dans les dernières minutes de l'émission déjà.
Monsieur Pepin, récemment, Humanware a rejoint la famille européenne de Essilor, qui est une société française spécialisée dans la fabrication de lentilles ophtalmologiques, qui compte plus de 60 000 employés. Donc, quels sont les avantages de cette association avec Humanware?
Écoutez, d'abord, Essilor est venu, nous, on est allé les voir, mais est venu dans le cadre d'un plan stratégique qu'on a fait. Donc, nous, on cherchait un partenaire stratégique pour la distribution de nos produits pour, en fait, démocratiser les produits de haute technologie dans le domaine de l'optométrie, des opticiens, donc des professionnels de la santé visuelle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on est bien organisé. Au Québec, on a 13 centres de réadaptation d'efficience visuelle qui offrent des services, comme l'Institut de santé Louis Braille, qui offrent des services à la population. Et il y a un service de proximité. Beaucoup d'endroits dans le monde, en particulier aux États-Unis, ce service de proximité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits où les gens peuvent aller et recevoir des services complets en réadaptation. Et il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs endroits dans le monde, dont le Québec, où des services de réadaptation complets, ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. C'est-à-dire que des gens pourraient, comme on a entendu parler tantôt, avoir un meilleur éclairage et pouvoir lire. Et donc, lorsqu'on a approché Essilor comme partenaire, on voulait qu'ils nous aident à démocratiser, donc à approcher les optométristes, les opticiens, les bureaux à travers le monde et nous permettre de vendre nos produits de haute technologie pour les personnes qui ont une basse vision, mais les vendre via des optométristes. Donc, c'est un nouveau réseau de distribution pour nous. Et dans le cadre de ces discussions sur un partenariat stratégique de distribution, Essilor a décidé, et ça, c'était très important. Moi, j'ai rencontré Hubert Sagnère, qui est le président de Essilor, du groupe Essilor. Hubert Sagnère, on a parlé rapidement de nos missions. Et la mission d'Essilor, elle est très, très complémentaire à notre mission. La mission d'Essilor, c'est d'aider à mieux voir pour avoir une vie plus intéressante. Et pour nous, en fait, ce que j'ai convaincu Hubert Sagnère que eux, ils adressaient les besoins de 98% de la population et que nous, le 2%, c'était nous qui faisions ça. Et Hubert s'est dit, ça fait partie de notre mission, on doit couvrir 100% des gens. Donc, on va travailler avec vous pour améliorer le sort des personnes qui ont une basse vision à travers le monde.
Quel constat que vous faites Humanware a été fondé en 1988. Quel constat vous faites maintenant de toutes ces années?
Écoutez, une des choses qu'il faut toujours considérer, moi je vois ça, là, surtout en technologie, il y a, une question de timing. Au milieu des années 80, la technologie personnelle, donc les premiers ordinateurs personnels sont apparus sur le marché et les personnes aveugles, ça représentait une opportunité extraordinaire pour eux. Parce que enfin, comme Éric l'a mentionné à plusieurs reprises, ça leur donnait une certaine autonomie pour lire, pour écrire, pour se déplacer. Et le potentiel de la technologie est devenu très, très grand à ce moment-là. Donc, ce que je remarque, c'est qu'un jour, il y a eu une convergence de toutes ces technologies-là qui a permis aux aveugles de pouvoir baser leur croissance personnelle sur la technologie. Et aujourd'hui, entre les deux, là, il y a eu une évolution extraordinaire. Extraordinaire en termes de performance de ces appareils-là, extraordinaire en termes de diminution de prix de ces appareils-là, extraordinaire, comme on a mentionné tantôt, Éric, chez nous, notre paye à tous les jours, c'est d'entendre les commentaires des gens qui nous reviennent et qui disent « Enfin, maintenant, je peux me déplacer de façon autonome. » Enfin, maintenant, j'ai pu passer à travers mes études à cause des appareils que vous distribuez. Les gens nous donnent des commentaires, des témoignages vraiment extraordinaires à tous les jours. Puis ça, c'est notre paye. Les gens chez Humanware, quand ils développent un produit, ils sont extrêmement fiers de savoir que ça a changé la vie de plusieurs personnes.
On peut vous rejoindre où, Éric, pour les gens qui aimeraient avoir de l'information sur les produits ou de l'information sur Humanware?
Vous pouvez me rejoindre je vais donner le numéro sans frais, le 1-888-723-7273. Et mon extension téléphonique, c'est le 335.
Et j'imagine que vous avez un site Internet.
Oui, c'est le www.humanware.com.
Messieurs, on est déjà dans les dernières minutes de l'émission. Il nous reste à peine une minute. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Ah, question.
C'est une bonne question, okay. Effectivement. Peut-être de continuer à rendre l'information accessible aux gens qui ont une basse vision.
Et de la santé, bien entendu, parce que vous avez beaucoup de pain sur la planche, j'ai l'impression.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. On a encore des défis importants. Puis il ne faut pas perdre tout l'avance qu'on a pris avec la technologie, parce qu'il y a aussi des menaces qui nous guettent, des choses qui vont apparaître, des nouvelles technologies qui vont apparaître sur le marché et qui pourraient ne pas être accessibles pour des personnes aveugles.
Merci infiniment, messieurs, merci d'être venus à notre émission. Alors, c'était la dernière émission de Point de vue, une idée originale de la Fondation En vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Merci à tous nos invités, à nos chroniqueurs de l'Institut Nazareth et Louis Braille, à notre marraine Pauline Martin pour ses capsules d'information et à toute l'équipe technique de Canal M pour leur professionnalisme, leur patience et leur accueil chaleureux. Et qui sait, on se retrouvera peut-être dans une autre série touchant à la déficience visuelle. Merci de votre écoute. Ici
Diane Felici
et Michel Poulin. On vous souhaite une excellente semaine.
Point de vue est présenté par la Fondation En vue de l'Institut Nazareth et Louis Braille en collaboration avec Canal M.